10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends. Une heure pour déconstruire les préjugés avec Yacine Ilmi. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous, bienvenue.
Bah écoutez, ça va, c'est plaisir de vous retrouver. Yacine, rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut OZEZ.
C'est ça, qui accompagne les imams pour apprendre le français, la découverte des institutions. Et puis on accompagne maintenant les responsables associatifs pour les former sur tout ce qui est gouvernance, comptabilité, accompagnement, gestion de leur mosquée.
Notamment. Ça tombe bien, parce qu'on va parler d'argent aujourd'hui. On va parler notamment du rapport des religions à l'argent. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux,
Facebook,
Yacine.
Picuni. Pour l'instant, on n'a pas encore de site internet, mais déjà, vous pouvez télécharger les podcasts sur Beurre FM, podcast Picuni. Et puis sur Facebook, vous pouvez commenter sur la page Facebook Picuni et voir les photos aussi de nos participants de très bonne qualité.
Pour parler d'argent, Claude Rouel, c'est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes philosophe, spécialiste des religions dans l'Antiquité. Alors que vous n'en êtes pas une d'ailleurs, hein, Claude.
Je suis gentil.
Tariq Abounour est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Imam dans la mosquée d'Ivry, théologien, Évry. Auteur du guide Évry. D'Evry.
Évry.
Ivry sans face, Évry. Couronne.
Ivry, c'est Mohamed Bajrafil.
D'Evry. Auteur du guide musulman, spécialiste en droit malikite et en finance islamique. Vous êtes président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris.
Tout à fait.
Avec nous également le rabbin Gabriel Agaï, bienvenue.
Bonjour à tous.
Vous êtes engagé dans le dialogue judéo-musulman, enseignant, chercheur, philologue et paléologue et codicologue.
À vos souhaits.
Merci d'être là et de m'avoir passé un mouchoir. Et le pasteur Gabriel Goléa est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Ça paraît court finalement, qu'est-ce que vous faites d'autre pasteur?
J'ai la responsabilité administrative dans mon église. Je suis le secrétaire général d'une union sur la France, la Belgique et le Luxembourg.
Voilà, et vous êtes pasteur évangéliste.
De la mouvement adventiste au sein de la famille protestante, donc adventiste du septième jour.
Adventiste.
Ouais.
Du septième jour.
Une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils respectent le Shabbat.
Enfin, exactement.
Vous avez votre
Shabbat. C'est-à-dire.
Nous respectons le samedi, pas dans la tradition rabbinique avec les mêmes codes, mais le jour du sabbat est important selon la Bible. Dieu a créé le monde en six jours, le septième se reposa, dit la Bible.
Nous, ça fait toujours plaisir quand il y a des chrétiens qui lisent la Bible, qui lisent la Torah en tout cas.
Oui, c'est important, la Torah, le respect de l'Ancien Testament, de cette tradition qui date depuis des milliers d'années. C'est une... un effort de redécouvrir le texte, aller aux sources.
Des mots que nous avons appris en préparant cette émission, Yacine.
Ah, c'est un mot qui concerne notamment nos amis catholiques, je crois. C'est les indulgences. Peut-être que vous pouvez nous dire quelques...
Alors, c'est, d'après ce que je sais, c'était la grille tarifaire inventée par l'Église catholique. C'était une sorte de TVA sur les fautes. Donc, selon telle faute, eh ben, on devait payer tant, de manière à être pardonné par Dieu, c'est-à-dire l'Église se mettait à la place de Dieu, donc le meurtre, 40 deniers, le viol, 30, etc., etc., voilà, un petit peu tout ça.
C'était la grille de l'époque. Hein.
Et sachant que ça a indigné quand même beaucoup de gens, parce que les gens... Alors, c'était pas une arnaque spécialement pour l'Église, c'était une rentrée d'argent. Hein. Par contre, les gens honnêtes se sont quand même élevés, et c'est une des causes de la scission entre les catholiques et les protestants.
16e siècle, le protestantisme. Mmh. Martin Bien. Luther, notamment, qui a été scandalisé par le fait que Dieu puisse être monnayé,
marchandé
dans cette relation, alors que c'est une relation d'amour, de pardon, de grâce.
Un deuxième mot, tiens, le mot usure, puisqu'on parle d'argent aujourd'hui.
Mmh. Alors, on appelle en islam riba, donc il y a des versets coraniques qui l'interdisent explicitement, et le considère comme une injustice. Dans mon livre qui s'appelle « Comprendre la finance islamique, éthique, pratique » et qui s'adresse justement à toute personne, hein, c'est pas qu'aux musulmans, « Comprendre la finance islamique », j'explique justement l'étymologie de ce mot, les origines de ce mot, l'histoire de ce mot, s'il existe bien avant l'islam, hein, même chez les Grecs par exemple, notamment le fait que l'argent, en fait, est un moyen, mais ne produit pas en elle-même de l'argent. C'est-à-dire que finalement, il faut l'adosser à une activité ou un actif. Et on ne peut pas, entre guillemets, industrialiser le crédit.
C'est voilà. Un concept, d'ailleurs, le mot riba, en hébreu, on a un mot très proche, c'est juste l'accent qui change, c'est ribbit. Et ça aussi, selon la Torah, c'est complètement interdit, okay. Sachant que c'est,
plusieurs, ouais.
C'est profiter de la pauvreté de quelqu'un, en fait, qui est interdite.
Alors, Claude Rouels.
Et là, pour une fois, il y a un lien direct avec la pensée grecque, puisque, par exemple, Aristote avait parfaitement qualifié cela en parlant d'une circulation crématistique de l'argent, c'est-à-dire que l'argent faisait des petits. Et alors, au fond, pourquoi l'usure était-elle... interdite, parce que c'était une spéculation de l'homme par rapport au temps. C'est non pas par rapport à Dieu, mais par rapport au temps. Pour les
Fait,
voilà, bon. Et là, il y a une prolongation au fond de cette pensée grecque va se retrouver dans les autres pensées des théologies.
Pour faire court en théologie musulmane, on appelle ça la facturation du délai de crédit. Il y a deux types de riba. Le riba al-fadl et riba al-nasi'a, mais pour faire simple pour ceux qui nous écoutent, facturation du délai de crédit. Autrement dit, on ne peut pas industrialiser le crédit, c'est Dieu qui doit rémunérer, entre guillemets, le crédit que vous donnez pour aider quelqu'un. C'est une entraide gratuite.
Pour faire simple, je vous prête de l'argent, je n'ai pas le droit de demander un remboursement avec
vous n'avez pas à utiliser, à abuser de votre aide, parce que c'est une aide, pour demander une rétribution, qu'elle soit pécuniaire ou non pécuniaire. Parce que, attention, dans le livre qu'on est en train de coécrire avec un ami, on appelle ça la colonisation par la dette. C'est-à-dire que la dette avait un rôle primordial dans la perte de souveraineté de plusieurs pays par le passé, et aujourd'hui, on le voit aussi avec la crise de la dette, de la perte de souveraineté de plusieurs pays, et à l'échelle... on va dire des pays, et à l'échelle des individus, quand on voit par exemple les surendettements, les suicides, etc., c'est ce mal moderne qui continue aujourd'hui à pourrir plusieurs vies.
Créer un mécanisme de dépendance.
C'est lié aussi au capitalisme. La dépendance. Exactement.
Je dis, le mot usure est n'est plus tellement utilisé aujourd'hui. Hein. C'est un mot qui est assez incompris, finalement.
On dit les intérêts.
Oui, voilà.
Mais est-ce que les intérêts, c'est des choses qui sont... on parle d'intérêts financiers, d'argent ou de biens?
C'est les deux. Dans mon livre Comprendre la finance islamique, je dis à travers le Coran et à travers la tradition, tout crédit qui génère un intérêt, qu'il soit pécunier ou non pécunier, est considéré comme du riba. Il y avait même une petite histoire comme ça pour que tout le monde comprenne. Un des compagnons du prophète, qui était, on va dire, le créancier de quelqu'un, donc il a aidé en lui donnant un peu d'argent pour un délai. Et il était sur le débiteur était sur sa monture. Il invite le créancier à monter. Vous voyez. Et donc le créancier lui dit non, je peux pas monter parce que j'ai entendu le prophète dire tout crédit qui génère un intérêt est du riba. C'est-à-dire je ne veux pas profiter de ma situation de force pour abuser de ta gentillesse. Parce que si j'étais pas ton créancier, peut-être que tu m'aurais pas offert ta
de
monture.
Monter, ouais.
Voilà.
Moi, j'ai une histoire vis-à-vis des religions et de l'argent. C'est un imam, un curé et un rabbin qui discutent répartir les données du culte entre ce qu'on prend pour soi et ce qu'on donne à Dieu, en tout cas aux bonnes œuvres. Et donc, l'imam commence, il dit, Dieu, c'est comme un cercle. Donc, je trace un cercle par terre, je lance l'argent en l'air. Ce qui est dans le cercle, c'est pour Dieu. Ce qui est en dehors du cercle, c'est pour moi. Le chrétien dit non, c'est il y a une ligne, c'est le péché, et donc je lance en l'air ce qui est à droite de la ligne, c'est pour Dieu, et ce qui est à gauche, c'est pour moi. Et le rabbin il dit nous on a la foi. Moi je trace rien, je lance en l'air, je dis à Dieu prends ce que tu veux, et puis moi je garde le reste.
Bravo.
Et vous savez que vous êtes bon pour les grosses têtes, Rabbin Agaï. Hein.
Merci.
Parce que vous nous avez raconté une autre histoire tout à l'heure qui me fait rire. Claude, vous avez une histoire aussi.
Non, j'ai pas une histoire.
Ah bon.
J'aimerais juste, puisqu'il a été question de finance.
Alors, dans votre micro, Claude.
Ouais. J'aimerais parler tout simplement du mot finance qui vient du verbe finir. C'est en finir une action grâce à l'argent. Bon. Et il faut savoir aussi que cette fonction de financier, parce qu'aujourd'hui elle est très décriée, elle était encore plus décriée avant. On a un texte, par exemple, de La Bruyère très sévère, disant « Il y a des âmes sales, pétries de boue et d'ordures, éprise du gain et de l'intérêt, comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu, bah, c'est l'inquiétude de la petite noblesse voyant monter la bourgeoisie, tout simplement, hein, au XVIIe, fin XVIIe. Et puis, on a au XVIIIe un texte extraordinairement beau, d'ailleurs, d'un grand roi de Prusse, mais qui écrivait en français et qui se répand en invectives toutes plus belles les unes que les autres sur les financiers. Bon, mais ça veut dire qu'à partir du XIXe, début XIXe, on est dans un monde régi par le capital. Et là, effectivement, bah, l'argent, la question de l'argent doit toujours être posée quand même dans cet horizon, me semble-t-il.
Alors, il y a énormément de clichés qui circulent sur les religions et l'argent. Tiens, le premier concerne les protestants. Les protestants ont la réputation de cultiver l'austérité et préfèrent l'épargne à l'endettement, puisqu'on parlait d'usure. Et il y aurait un rapport très décomplexé avec l'argent.
Oui, c'est
Gabriel Gueuléa.
Si vous voulez, c'est toute l'histoire de l'Europe. C'est, si vous regardez les pays de l'Europe centrale, l'Allemagne, des pays qui ont connu la réforme, c'est aussi là, disons, un effet immédiat d'une façon de voir l'argent. Si vous regardez les réformés à Genève, Calvin par exemple, il avait un dicton qui était très pratique, c'est que s'il y a de l'ordre au ciel, il faut qu'il y ait de l'ordre sur terre. On peut pas prêcher ou parler d'un Dieu qui est riche, un Dieu qui est bon, qui est rempli de, disons, de bienfaits, et avoir de la misère devant chez soi. Enfin, c'est impossible de concevoir ces deux mondes en contradiction. C'est-à-dire que la religion doit apporter un bénéfice, un avantage visible, concret. C'est pour cela que la question de l'enrichissement ne pose pas toujours un problème, d'où la nécessité de recadrer, parce qu'il peut y avoir des dérives, comme c'est un peu le cas dans toutes les religions et chez tout être humain. Mais principalement, c'est l'idée de dire, il y a aussi dans l'Amérique du Sud, ce qu'on appelle une théologie de la prospérité aussi, il y a des dérives également, c'est de dire que voilà, la bénédiction égale l'enrichissement.
Mais sur l'épargne, les protestants ont cette réputation d'être des épargnants.
C'est lié à une question de responsabilité, et c'est lié à plusieurs domaines de responsabilité, l'écologie, la nature, c'est d'envisager une économie qui pense à la génération suivante. Faut pas tout dépenser maintenant, on a une responsabilité, donc nous sommes des gérants. Donc quand on dit gérant, vous comprenez, on n'est pas des propriétaires, on est des gérants.
Dépositaires, finalement.
On nous a confié quelque chose. Alors voilà, c'est très important
de gérer. La question que je me pose en vous écoutant, c'est est-ce qu'on peut être riche et religieux à la fois ou
C'est pas incompatible. Les grands hommes de la Bible étaient riches. Abraham, on prend des plus grandes personnalités. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est pas l'argent, c'est l'attachement à l'argent.
C'est une question des rabbins dans notre littérature. Et en fait, ça n'a rien à voir. Il y avait des très grands rabbins qui étaient très pauvres, oui. Et il y avait des très grands rabbins qui étaient très riches. Et on considère la richesse comme une épreuve. Donc on espère s'abstenir d'être riche, parce qu'on on perd vraiment beaucoup de temps. Parce qu'en général, le dicton chez nous dit « celui qui a 100 veut 200 ». Donc c'est compliqué d'être riche, et c'est vraiment une épreuve. Il y avait un grand rabbin célèbre au Moyen-Âge qui s'appelait Avraham Ibn Ezra, qui a voyagé beaucoup dans le monde, et lui, il était très pauvre. Et c'était son destin d'être pauvre, et il c'était un poète aussi, et il disait, si je me mets à vendre des chandelles, le soleil ne se couchera jamais, et si je me mets à vendre des linceuls, plus personne va mourir. Voilà.
Ouais. Alors, on n'a pas entendu l'imam sur l'argent.
Oui, tout à fait. Alors, le rapport de l'islam avec l'argent, l'islam ne condamne pas la richesse. L'islam est un juste milieu entre ce qu'on appelle, dans le jargon, le communisme et le capitalisme. Comment ? Puisque le rapport de l'islam à l'argent, il considère l'argent comme étant à Dieu. Elle n'est pas la propriété de l'homme. Elle est à Dieu et qui va éprouver l'être humain, qui va lui confier cet argent le temps de sa vie éphémère.
Donc là aussi, c'est une épreuve.
C'est à la fois une épreuve, mais également et surtout une responsabilité, parce que le Coran nous dit « Wa anfiqou mimma ja'alakum mustakhlafina fi » et dépensez de quoi on vous a rendu vicaire, lieutenant, responsable. Donc il y a une responsabilisation par rapport à l'argent, et justement, on regarde en islam la provenance et la dépense, c'est-à-dire la provenance de cet argent, la dépense de cet argent, et surtout, il y a ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire l'aumône purificatrice d'égal, qui est un pilier de l'islam, qui permet justement à la fois, de, au-delà de son côté spirituel, de purifier l'âme humaine de l'avarice, etc., etc., un rôle tout à fait social, humain, qui est de partager avec l'autre, de diminuer les écarts entre les pauvres et les riches. Et pour finir, cette question de relation avec l'argent, on n'est pas propriétaire, mais en même temps, l'islam protège le bien. C'est-à-dire, il considère la personne comme étant sacrée, les biens aussi sont sacrés.
Bien. J'ai l'impression que les religions et l'argent font bon ménage, Yacine. On en parle ce matin dans Speak Uni.
Speak Uni revient dans un instant. 10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni, le rapport des religions avec l'argent, on en parle aujourd'hui avec le rabbin Gabriel Haguet qui est avec nous, le pasteur Gabriel Goela, Tariq Abounour qui est là, imam de la mosquée d'Evry-Courcouronnes, et Claude Rouels qui est avec nous. Alors Yacine, une citation concernant l'argent.
Alors qui a dit, quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion?
Ou la religion n'a pas d'argent.
Est-ce que c'est le même
Quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion.
C'est pas Oscar Wilde.
Non.
Il n'est plus de ce monde, à votre avis.
Alors attends,
c'est un écrivain.
Dans ces cas-là, il faut.
J'ai l'impression que beaucoup de monde en dit ça.
on peut le dire dans toutes les langues.
Non, je veux le dire Bernard Tapie, mais ça marche pas. Donc, quel siècle?
18e, je pense.
Ah. Non.
Adam Smith?
C'est Molière, non? C'est pas Molière.
Il est français.
Ah.
Alors, c'est un français, il a été ministre des Finances d'un roi.
Turgot?
Non.
Colbert?
Non. 17e siècle.
Quesnay?
18, 17e.
C'est Quesnay, non? C'est non. 18e ou 17e?
Il est né dans 17e, il est...
Mazarin, Richelieu.
Yacine, parce que là, on est...
La Bruyère?
Bon.
Non,
Voltaire.
Voltaire.
D'accord. Faut nous dire, ça commence par un V, Yacine.
Voilà, bah oui,
c'est,
Voltaire,
c'est,
oui.
C'est plus simple. D'où cette idée, finalement, vient-elle que c'est plus facile d'être croyant quand on est pauvre que quand on est riche?
Ben, encore une fois, je pense que quand on est riche, on est très facilement... notre esprit est très facilement happé à des choses superficielles, s'occuper de son argent, s'occuper de le faire fructifier, avoir cette peur. Alors, pour illustrer ça, il y a un roi à l'époque en Terre Sainte, en Judée, qui a hérité de sa famille une fortune immense. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dilapidé toute sa fortune il y avait des années de famine, il manquait de pluie, et il a dilapidé toute la fortune familiale amassée depuis des siècles pour acheter de la nourriture, pour nourrir la population. Et sa famille, bien évidemment, lui a fait scandale. Il a dit, mais mes ancêtres étaient bêtes parce que ils ont amassé quelque chose que les gens pouvaient leur voler. Et moi, j'ai mis tout ça à un endroit où personne va pouvoir me le voler. Deuxième chose, ils en ont jamais profité après leur mort. Moi, je l'ai mis à un endroit où j'en profiterai après ma mort. Voilà. Donc, en fait, l'argent, la véritable richesse au point de vue spirituel, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. Mmh. Et ça, c'est très, très différent de l'esprit capitaliste ou de l'esprit occidental. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les civilisations traditionnelles. Le roi ou le chef de famille ou le, c'est celui qui nourrit sa population. C'est pas celui qui a plus, c'est celui qui donne le plus.
Ouais. C'est pour réfléchir. Alors, que disent. Oui.
Pasteur
Gabriel.
Un jour, le prophète Jésus avait dit : aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez donc pas servir en même temps Dieu et l'argent. Le dilemme est là, en fait. L'argent, c'est pas un problème. C'est la question de service, d'attachement. Et effectivement, il peut y avoir des... disons,
c'est-à-dire qu'en fait, c'est la relation qu'on a à l'argent, c'est ça?
Pour l'instant, oui. Et pour répondre à la question qu'Yacine posait tout à l'heure, on peut être spirituel, religieux, tout en étant riche. Et comme on peut être vraiment athée et loin de Dieu en étant pauvre. Donc la richesse ou la pauvreté ne délimite pas le statut de religieux.
Oui.
Non, c'est la relation qu'on crée vis-à-vis d'eux. Il y a des pauvres très orgueilleux et des riches extrêmement pieux.
Alors, ce qui est condamné par l'islam, c'est pas la richesse. Ce qui est condamné par l'islam, c'est l'attachement. qu'on a à l'argent. C'est-à-dire rendre l'argent un dieu. Rendre un culte à l'argent. Hein, c'est-à-dire
on parle de la religion la de l'argent.
Voilà, la servitude. C'est un asservissement, c'est ça qui est condamné de façon ferme. Et d'ailleurs, pour l'islam, je l'ai dit et je le redis, du moment que cet argent est gagné licitement et dépensé licitement et surtout utilement, du moment que cette zakat est payée, il n'y a aucun problème. Et du moment qu'il n'y a pas cette attache, parce que dès qu'il y a l'attache, il y a l'avarice, il y a les différentes maladies, c'est-à-dire les maux de l'argent, M-A-U-X. Et je cite des exemples, il y a des prophètes qui ont été très riches, des compagnons du prophète du dernier messager qui ont été très riches, d'autres très pauvres. Justement, l'argent peut aider une personne à faire du bien, à servir autrui, et donc d'augmenter ses mérites chez Dieu. Je donne toujours l'exemple de Salomon et Job, hein, Souleyman et Ayoub. Souleyman était très riche, un prophète très très riche, d'une richesse immense, un royaume immense, jamais égalé. Et malgré cela, ça ne l'a pas détourné de Dieu. Bien au contraire, il a mis cet argent, ce royaume, ce pouvoir au service de Dieu. Job, il a été éprouvé par des maladies, par des épreuves. Et malgré cela, il n'a pas été détourné du chemin de Dieu, bien au contraire. Donc l'un et l'autre, l'un est l'exemple justement de la gratitude et l'autre est l'exemple de la patience et de l'endurance.
Tant qu'on reconnaît que toute cette richesse vient de Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec cette richesse. Et c'est le verset, justement, un verset dans Job qui dit « Mirdimani ou Hachallem », Dieu dit comme ça, « Qui m'a devancé ?» Qui a pu me devancer alors que moi je l'ai devancé encore plus en le payant. C'est-à-dire que quelqu'un veut donner la dîme sur son champ, mais moi je lui ai donné la récolte avant. Quelqu'un va circoncire son enfant, mais moi je lui ai donné un enfant avant. Quelqu'un va mettre la mezouza sur la porte, mais moi je lui ai donné la maison avant, etc. Donc tant qu'on a cette reconnaissance, tant qu'on ne faute pas en disant « Kohi wa asem yadi asali et tahaylazé », c'est-à-dire l'équivalent du verset en arabe, la hawla wa la quwwata illa billah, c'est-à-dire que c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'en fait toute cette réussite. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire c'est Dieu qui m'a donné la force.
C'est ce qu'a dit un certain Qaron.
Et oui, tout à fait.
Qaron qui était très riche à l'époque de Moïse, et effectivement, il a payé très cher.
Chez nous, on l'appelle Korah.
Korah, exactement. Voilà.
Passe à Gabriel.
Oui, effectivement, le remède contre tout ça, c'est la générosité et la fidélité vis-à-vis de Dieu. Il y a dans la Bible des recommandations dans ce sens. Donner la dîme, apporter des offrandes à Dieu, c'est ne pas oublier qu'on n'est pas au centre du monde et que nous sommes reliés aux autres et principalement à Dieu. Donc c'est très important. Autrement, on devient des mauvais gestionnaires.
Claude.
Encore une fois, toutes ces pratiques, ces solutions, c'est plus que des solutions, ces manières de faire, ce sont très belles, mais qu'en est-il dans un horizon où, de toute façon, le plus souvent, tout devient objet d'échange, y compris ce qui, aux yeux des hommes, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion, pouvait relever du sacré. Ça, c'est quand même une des grosses, grosses questions de notre époque, qu'a posé évidemment Marx, mais que quelqu'un en 1825 avait commencé par voir en disant « Richesse et vitesse, voilà ce que le monde admire et ce vers quoi chacun tend. » C'est Goethe qui parle comme ça en 1825. Et là, est-ce qu'on n'est pas dans ce siècle vélocifère de plus en plus dans un mouvement tel que c'est très impressionnant. Si vous le permettez, je vais lire un petit texte de Dostoïevski qui se trouve à Londres en 1862, à l'époque donc où Marx fait son œuvre. Et voilà ce qu'il dit. Il dit à propos, alors il est à Londres pour quelques jours, hein, mais ça lui suffit comme c'est un grand écrivain. Il dit « C'est une ville qui s'agite jour et nuit ». Infini comme la mer, ce crissement, ce hurlement des locomotives, ces chemins de fer posés au-dessus des maisons et bientôt sous les maisons, c'est le métro, cette audace de l'esprit d'entreprise, cette apparence de désordre qui est en fait l'ordre bourgeois porté à son degré suprême. Vous ressentez cette force terrifiante qui a réuni ici en un troupeau unique toute cette infinité de gens venus du monde entier. Vous ressentez cette pensée titanesque. Vous ressentez que là, quelque chose est atteint, qu'il y a une victoire, un triomphe. Vous commencez même comme avoir peur de quelque chose. Ne serait-ce pas ici la fin ? Ne serez-vous pas obligé d'accepter ça au bout du compte, réellement, comme la plus vraie des vérités, et de vous taire définitivement ? La réponse est que bien sûr non, mais voilà, je voulais quand même
poser les bourgeois qui étaient associés à l'argent quand même à l'époque. Hein,
c'est il faut parler aussi de solutions peut-être, parce que c'est bien beau de dire, qu'il y a un problème avec l'argent, mais la solution, par exemple, le Coran nous dit « Vous n'allez atteindre le bien, ou la bienfaisance, ou l'excellence, que si vous dépensez du meilleur de ce que vous avez, ou de ce que vous aimez. » C'est-à-dire, le fait de dépenser, le fait d'avoir un rapport avec l'argent désintéressé, il vient d'une éducation spirituelle. C'est-à-dire, c'est ce travail sur nous-mêmes qui fait qu'on rend avec la servitude.
Du coup, qu'est-ce que vous dites à vos fidèles aujourd'hui?
Et juste, je termine, il y a des exemples. Il y avait Abou Bakr qui a tout donné pour le prophète. Il y avait Uthman ibn Affan, très riche, troisième calife. Et sa richesse, justement, a été un tremplin pour lui, pour justement cheminer vers Dieu et ne pas oublier son prochain, parce que justement, on nous dit que celui le plus aimé à Dieu, c'est celui qui est au service de ses créatures. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire, plus on a ce sentiment de bienveillance, ce sentiment de solidarité, cette générosité vis-à-vis du prochain, plus on est rétribué par Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre des religions.
Alors, Rabbin Gabriel et puis...
En fait, moi, ça va compléter, mais c'est juste... est-ce que moi, en vous écoutant, je me pose certaines questions. En tant que religieux aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à vos fidèles? Est-ce que vous leur dites... vous n'avez pas... entreprenez, devenez riche, n'ayez pas peur de gagner votre vie?
Non,
ou,
on dit jamais devenez riche. Moi, je dis... méfiez-vous de l'argent et n'allez pas dans les solutions les plus simples. C'est-à-dire, il y a des métiers, par exemple, mes enfants, j'aimerais pas qu'ils travaillent, par exemple, qu'ils soient dans la finance ou dans la banque ou dans des choses comme ça. Personnellement, parce que ça pose des problèmes moraux, par exemple, surtout dans la banque. La banque, ils gagnent l'argent, en fait, sur le dos des pauvres, sur le dos des intérêts, des choses comme ça. Donc, moralement, c'est un petit peu difficile.
Et on vient de prononcer le mot pauvre.
Ben oui.
On n'a pas beaucoup prononcé, on parlait d'argent, mais on n'a pas beaucoup parlé de la pauvreté, vous voyez. On a parlé de l'argent, parce qu'on a parlé de la richesse.
Oui, Philippe, ben, oui. Religion et argent, souvent, en tout cas pour la communauté juive, par exemple, quand on veut manger cachère, la viande cachère, elle est deux fois plus chère que la viande non cachère.
Il y a beaucoup d'articles religieux. N'est pas chère.
Ouais, il y a beaucoup d'articles religieux qui sont pas donnés. Or, ça contredit un enseignement de chez nous qui dit Dieu lui-même, il n'a pas demandé qu'on paye pour faire les bonnes actions. Il n'a pas demandé qu'on paye un droit d'entrée. Bon, heureusement, il n'y a pas encore des droits d'entrée pour rentrer à la synagogue. Mais presque, je veux dire, ceux qui ont de l'argent, ils ont un siège au premier rang, et ceux qui en ont moins, ils s'assoient derrière. Et on a souvent tendance à juger la personne sur les habits. Alors, le rabbin dont j'avais parlé, qui était toujours pauvre, dans ses voyages, un jour, il s'est aperçu qu'on le respectait juste parce qu'il avait à l'époque un grand turban et il était habillé comme un rabbin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son serviteur, il l'a habillé comme un rabbin, et lui s'est habillé comme un serviteur, et il a vu tous ces idiots qui donnaient un énorme respect juste au turban et puis à la robe rabbinique, plutôt que à lui, et voilà. Et ça le travers, et je pense, comme le disait l'imam Tariq, c'est dû à l'éducation. Il faut éduquer les personnes à aller vers l'essence des choses, vers l'être. Et encore une fois, la richesse, c'est le don. C'est pas l'avoir, c'est l'être. Et donc, l'être, c'est dans le don. Parce qu'en donnant une chose, eh ben, on l'aura pour toujours. On a la bonne action de l'avoir donnée. Et cette bonne action-là, elle est avec nous et elle sera avec nous même après la mort.
Imam Tariq.
Oui, alors, je termine peut-être par ça, parce qu'effectivement, on converge. Hein. On nous dit que ce qu'on appelle l'aumône courante, c'est-à-dire le meilleur investissement qu'une personne peut faire, c'est donner à son prochain, parce que ça, tu vas le retrouver. Tout ce que tu dépenses, tout ce que tu dépenses dans les futilités, t'es en train de le perdre. Et tout ce que tu dépenses pour Dieu, c'est-à-dire pour ton prochain, pour aider ton prochain, tu dis, Dieu n'a pas besoin que tu dépenses pour lui. C'est quand on dit dépenser pour Dieu, ça veut dire dépenser pour notre prochain, au service de l'autre, pour aider l'autre par entraide et par solidarité, qui est une valeur intrinsèque en islam. Plus tu dépenses pour l'autre, plus tu construis, entre guillemets, ton avenir et l'avenir de tes enfants. Ça travaille même pour tes enfants. Et ça, c'est ça le sens, en fait, de la vie. C'est comment aimer son prochain, comment se mettre à la place de son prochain. Si chacun de nous utilisait cette fameuse tradition, cette fameuse maxime, nul n'est véritablement croyant s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même, je pense qu'on éradiquera la pauvreté. Il n'y aura plus de pauvres, parce qu'on n'aimerait pas que les autres soient dans la misère et le besoin.
Bien, on verra tout à l'heure si l'argent sur cette terre est un obstacle à la vie dans l'au-delà. C'est Spikuni jusqu'à 11h.
Spikuni revient dans un instant. Spikuni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Spikuni, spiritualité, culture, harmonie. Il y aura un quiz tout à l'heure, Yacine.
Il y aura un quiz.
Très bien, on parle de l'argent dans les religions et du rapport à l'argent avec le rabbin Gabriel Aguet qui est avec nous, le pasteur Gabriel Goella, Tariq Abounour, imam de la mosquée d'Evry, et Claude Rouels, qui est notre philosophe. On jouera donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, au quiz, et on se posait cette question tout à l'heure, avant la pause, avant de faire rentrer de l'argent dans la caisse. Est-ce que finalement l'argent sur cette terre sera un obstacle dans la vie de l'au-delà? Pasteur Gabriel.
Oui et non. Bien sûr que l'attachement à quelque chose qui coupe la relation avec Dieu est banni et n'est pas recommandé. Jésus invite ses disciples, il nous invite nous tous à avoir une relation ouverte vis-à-vis d'un Dieu créateur, un Dieu sauveur. Et effectivement, l'argent ne fait pas bon ménage par rapport au salut parce qu'il bloque justement cette relation. Après, vous avez des personnes qui sont tellement dans la pauvreté qu'ils n'arrivent même pas à penser ou avoir une réflexion spirituelle à cause justement de la difficulté. D'où
de survivre.
Tout simplement. D'où la nécessité justement, la responsabilité qui est la nôtre, d'avoir un regard de soutien, de fraternité justement. Parce qu'on parle du salut, on parle des choses qui sont tellement belles et extraordinaires, mais quelqu'un qui n'arrive même pas à manger, comment est-ce que la personne peut accéder à des réflexions beaucoup plus poussées? D'où notre engagement, notre responsabilité pour aider ces personnes et rester dans cette générosité à laquelle la parole de Dieu nous invite.
Alors, dans la tradition juive, il est dit « Mais Achir, quel est le véritable riche ?»« Hassameh Behelcho, celui qui est content de son sort, enfin content de la part que Dieu lui accorde. »
Il faut donc, savoir se donc satisfaire de ce qu'on a.
Voilà, donc c'est la satisfaction. Donc quelqu'un qui peut vivre pauvrement, mais qui a suffisamment, il est considéré comme riche. Et quelqu'un qui est très très riche en quantité, mais qui n'est jamais satisfait, en fait, il n'est pas riche du tout. Il est pauvre. Eh oui.
Imam Tariq.
Oui, alors je suis en phase avec ce qui a été dit. Et effectivement, pour l'islam, le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple par lui-même, par son extrême générosité, au point que tout ce qu'il avait dans la journée, il n'était tranquille que lorsqu'il dépensait tout pour ceux qui en avaient le plus besoin. C'est très important. Et effectivement, plus tu dépenses, plus tu te sens heureux, plus tu sens que tu as été au service de ton prochain. C'est ça l'amour de Dieu. Il est dans le service des créatures. Et ce qui est très important, c'est que le fait d'avoir de l'argent peut être un tremplin. Un tremplin dans l'élévation, dans l'évolution, l'épanouissement spirituel de la personne, du moment qu'il est détaché de ses biens. C'est-à-dire
des biens
du moment qu'il les utilise à bon escient, qu'il les dépense dans ce qu'il
faut. Et est-ce qu'il y a des recommandations coraniques sur la façon de dépenser l'argent?
Bien sûr, il y a évidemment ce qu'on appelle la zakat, l'aumône purificatrice légale qui est donnée à 9 catégories qui sont citées dans la sourate 9. Mais au-delà de ça, j'allais dire qu'en islam, on a même quelque chose de très important qui est la tradition qui nous dit il n'y a pas de gens qui habitent un quartier. C'est très important dans la théologie. Il n'y a pas de gens qui habitent un quartier. Et quelqu'un qui passe la nuit dans ce quartier, affamé, ou qui a froid, qui est dans le besoin, tant que le désaveu de Dieu et de son prophète ne s'abatte sur ce quartier, tout ce quartier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui agit en faveur, en solidarité à cette personne qui est dans le besoin, qu'on voit devant nous, ça devient notre responsabilité. S'il n'y a pas de groupe des gens qui agissent en faveur de cette misérable personne pour l'aider, tout le monde, de façon solidaire, est responsable. Donc, il doit assumer. C'est ça la solidarité. C'est-à-dire, quand il y avait, entre guillemets, à l'époque, il y a quelques siècles, quand il y avait ces musulmans pratiquant correctement, à l'époque de Omar, il n'y avait plus de pauvres. On sortait la zakat l'aumône, on ne trouvait plus à qui la donner.
Mais normalement, la zakat, c'est fait pour qu'il n'y ait plus de pauvres.
Et oui, et justement, elle a réalisé ce but final, qui était justement d'éradiquer et d'exterminer la pauvreté. C'est un grand combat, et aujourd'hui, malheureusement, à cause de la vanité, à cause de l'attache à l'argent, l'argent devenu l'idole, la nouvelle religion, eh bien, on a perdu cette solidarité, on a perdu cette générosité. Chacun pense à lui-même, donc c'est l'individualisme qui a remplacé la générosité. Et malheureusement, quand on est dans l'individualité, on s'insulte soi-même. C'est-à-dire, on oublie qu'un jour, on deviendra nous-mêmes aussi dans le besoin. Personne n'est à l'abri.
Pour avoir une critique envers nous-mêmes, effectivement, je pense que le défi actuel des religions, d'une façon générale, c'est justement le rapport vis-à-vis des personnes en difficulté. Vous avez en face un humanisme croissant qui n'a rien à voir avec la religion, enfin en tout cas sur un plan formel, et qui bat tous les records. Il y a des associations, il y a des personnes qui sont impliquées dans ça. Et nous venons, nous, les grands protagonistes des religions, pour dire il faut aimer son prochain, il faut... Alors, ça a l'air d'être un peu démodé. C'est très loin de la réalité, parce qu'effectivement, l'égoïsme, les préoccupations très égocentriques nous empêchent d'être dans ce que nous savons et ce que nous devons faire. Donc je dirais que la communauté, le groupe ou la personne, les familles qui arrivent à gagner ce pari sur le plan réel, sur le terrain, au-delà des mots, des doctrines, des grands discours, ce sont ceux qui ont gagné la bataille.
Romain Gabriel.
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que un véritable être spirituel, c'est quelqu'un qui est complètement engagé dans le social au service de l'autre. Et on ne peut pas se dire religieux ou amoureux de Dieu si on n'est pas au service de son prochain, qu'il soit-il. C'est-à-dire que moi, en tant que juif en France...
L'unanimité.
Bien sûr, en tant que juif en France, je ne vais pas seulement nourrir les juifs. Je vais aller dans les centres d'accueil d'urgence, je vais aller dans les endroits où il y a des migrants, dans les endroits voilà, où les gens sont en grande précarité. Cuisiner, avec ma femme, on fait ça au moins toutes les semaines. On fait des gamelles comme ça qu'on distribue parce que ça fait partie de notre... engagement spirituel. L'engagement spirituel, c'est obligatoirement un engagement envers notre frère et nos sœurs humains.
Alors, il y a un cliché sur l'islam et les musulmans, et puis même chez nous, dans notre communauté, les gens croient qu'on ne peut donner de l'aumône ou qu'on ne peut aider que la...
Que sa communauté.
Sa communauté. C'est faux. Ouais. Pourquoi c'est
ça
faux?
Ça existe chez nous aussi, malheureusement.
Coran, voilà, ça existe partout.
C'est le débat avec Jésus. Qui est mon prochain
humain. Voilà, exactement. Qui est mon prochain? Alors, dans le Coran, il y a eu une réponse. Parce que les compagnons du prophète de l'islam sont venus le voir. Ils lui ont dit, est-ce qu'on peut donner, est-ce qu'on peut être au service des gens qui ne partagent pas avec nous la même religion? Le prophète, sais-tu, Gabriel est venu avec le verset, laissez alayka huda, walakin Allah yahdi man yasha, qui se traduit par c'est pas toi qui guide, c'est Dieu qui guide. Et ce que vous donnez pour Dieu. C'est-à-dire votre commerce, il est fait avec Dieu. Il ne faut pas regarder la couleur de l'autre, la religion de l'autre, l'ethnie de l'autre. Il faut lui donner parce qu'il est un être humain, parce qu'il est une créature de Dieu, d'abord et avant tout. Et vous avez la responsabilité, le devoir de l'aider. Ouais. C'est très important. Et on a allié l'acte à la parole. Dans ma propre mosquée, puisqu'on a le chaque hiver, on appelle aux dons, on fait des collectes, et on a ramassé, grâce à Dieu, des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires non périssables et de vêtements pour l'hiver, qu'on a distribué à tout le monde, notamment aux réfugiés, et j'invite tout le monde à faire pareil.
Alors, si vous voulez, cette semaine, les Restos du Cœur ont besoin. Ils ont besoin de ramasser.
Et les gens se montrent très, très généreux. Ouais. Dans mon prêche du vendredi, j'ai dit, écoutez, soyez très généreux, parce que tout ce que vous faites, c'est un commerce avec Dieu, avec l'Éternel.
Mais j'ai pas l'impression que les gens sont généreux quand on leur demande, et qu'après, le reste de l'année, ils le sont moins.
Mais il faut répéter, il faut organiser.
Parce qu'ils ont besoin de quelque chose de très visible, très concret, et non pas juste une générosité virtuelle. Il faut un projet. Vous présentez un projet, les gens sont sensibles, même s'il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'humanitaire, mais il y a aussi beaucoup de misère. Et quand les gens voient quelque chose de concret, ils répondent.
La générosité nourrit, elle nourrit.
Est-ce qu'il ne manque pas de leaders, finalement? Parce que
c'est le dynamo, c'est ce que
on a eu dans l'histoire des leaders religieux. On peut citer l'abbé Pierre, par exemple, qui a, jusqu'à aujourd'hui, on voit...
Une figure
emblématique qui a apporté sa contribution dans l'aide, alors que c'était un religieux. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui manque finalement.
Non, moi je pense qu'il y a beaucoup d'abbé Pierre, ils sont simplement discrets, c'est-à-dire on n'est pas obligé de crier sur les toits qu'on est généreux ou qu'on appelle à la générosité. Il y a beaucoup, beaucoup d'équivalents d'abbé Pierre dans toutes les religions.
Je rejoins Tariq sur ça.
Je comprends un petit peu la question de Yacine. Effectivement, sur un plan général, pas uniquement sur ce sujet, mais il manque parfois des personnalités charismatiques. C'est vrai que surtout les jeunes ont besoin de ça. Et c'est un contexte particulier, l'hiver, etc. Il y avait, donc, il y a ça aussi. En même temps, je suis tout à fait d'accord, vive les héros anonymes.
Ça fait partie de notre épreuve divine de cette époque-là, justement. Ouais. Cette absence de figures de proue, et ben, c'est à nous de devenir ces figures-là, en fait. Voilà.
On n'a pas besoin de beaux parleurs, on a besoin de personnes sur le terrain qui agissent. Aujourd'hui, c'est les gens aujourd'hui n'ont pas besoin de blabla, tout le monde, voilà, on a besoin de projets concrets comme vous l'avez dit, d'organiser les gens autour de ce projet, que ce soit un projet pour le bien commun, c'est ça le bien commun.
Ceci dit, aujourd'hui, certaines associations sont devenues des grands collecteurs numériques et l'abbé Pierre a été remplacé par ceux qui savent faire de l'argent sur internet et pour le coup, ils font des millions d'euros. Alors Yacine, nous allons jouer au grand quiz des religions et je vous rappelle que vous gagnez tous et toutes et je sais que vous allez vous battre pour ça, une poupée Chifa. Alors, Yacine.
Vous êtes prêts ?
Oui, ils sont très très prêts. Est-ce que vous êtes prêts, vous, Yacine ?
Bien sûr.
La vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêts ?
Première question.
Oui.
Je suis un mouvement protestant de la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. S'inspirant du calvinisme, des théologiens anglais ont commencé une réforme théologique, liturgique, pardon, vestimentaire et architecturale des pratiques religieuses.
Luthérisme, non ?
Non.
Quaker, non ?
Non, non plus.
Aux États-Unis,
c'est une théologie qui déboucha sur l'émergence de l'église presbytérienne. Puritanisme,
c'est ça ? C'est
bravo.
Ça ?
Ah oui, d'accord. Alors là, vous avez été aidé, donc vous marquez un point, mais bon, il fallait le trouver. C'est le puritanisme.
Le puritanisme.
Ouais, c'est
pas évident du premier.
C'est un terme.
C'est un terme un peu général.
Yacine, vous refaites le temps d'une deuxième question là.
Deuxième question. Comment appelle-t-on le sacrement dans l'Église catholique qui a pour but de pardonner les péchés ? C'est le sacrement de.
Pénitence.
Je connaissais l'abbé Pierre, mais la pénitence.
Non, il y avait l'abbé Souris aussi, mais c'est un nom très bien. C'est le pasteur qui marque le point, évidemment.
Troisième question. Oui. Je suis un des principes islamiques majeurs. Notion en islam qui peut signifier la bienfaisance, l'extrême bonté, l'excellence, la perfection.
Ihsan.
Bravo, l'Ihsan.
Alors, on répète pour tout le monde.
Ihsan. L'excellence.
Agir dans la vie en ayant toujours Dieu présent dans son esprit.
Qui est la troisième
et dernière station dans les stations de la spiritualité. Donc, c'est que tu adores Dieu comme si tu le vois, car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit.
Bien. Claude et le pasteur, là, vous êtes largués, là. Vous refaites sur cette quatrième question et dernière question.
Dernière question qui vaut double ou pas ?
Le prix ne parle pas.
Je suis un concept hébreu et un terme désignant dans le judaïsme le principe religieux de l'aumône. Le radical du mot.
La sédaka.
Sédaka.
Et c'est le rabbin qui marque le point.
Toi, tu prononces. Sédaka, c'est la prononciation
israélienne. Il l'a dit avant moi ou...
Mais c'est avec un
fort. Oui, enfin, c'est, vous avez dit tous les deux en même temps. Bon.
C'est aussi le droit du pauvre. C'est pas une charité, finalement, mais un acte de justice.
Bien.
Tout à fait, parce que Sédaka, c'est la justice. Et donc, Sédaka, c'est la charité, mais la charité qui rétablit une certaine injustice.
Qu'on appelle aussi l'arabe Sédaka.
Sur le plan juridique,
voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, cette charité-là, on dit la meilleure des charités, c'est celle qui est sur son corps. C'est-à-dire, on donne de soi. C'est pas seulement donner de son argent ou de ses avoirs, mais vraiment, c'est donner au maximum. Et la meilleure, ce serait de sortir quelqu'un de la pauvreté complètement.
Bon, je suis d'accord pour donner le point également à l'imam Tariq et l'imam Abdelali Mamoun sera d'accord pour offrir deux poupées Chifa. Il n'est pas là. On tape dans sa main la poupée Chifa. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Yacine.
SpeakUni, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre et commenter aussi, donner votre avis sur la page Facebook. Et puis, vous verrez aussi nos. On fera la photo, donc on la mettra sur la page.
Merci d'avoir été avec nous. Très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez SpeakUni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.